Sœurs et frères, dimanche dernier, nous avons commencé un parcours de méditation sur la première épître de Paul aux Corinthiens. Et souvenez-vous, nous avions posé une question toute simple, mais pas facile à résoudre quand même. Ça change quoi d'être chrétien ? Est-ce que notre foi change quelque chose à notre façon de vivre ? Et je crois qu'un passage de l'Épître répond précisément à cette question. Et au lieu de vous le lire tout de suite, et puis ensuite de le méditer, on fera lecture de belles tranches de cet Épître, chemin faisant. D'accord ? Avant de lire ces belles tranches d'Écriture, je voudrais d'abord explorer un petit peu la question que je viens de poser. Être chrétien, qu'est-ce que ça change dans notre façon de vivre ? Si nous répondons que notre foi ne change pas grand-chose à notre manière de vivre, même si ce serait là un aveu honnête, il y a quand même un problème. Vous en convenez. Et on peut se demander à quoi bon devenir chrétien ? Parce que finalement, être chrétien, ce serait une sorte de disposition intérieure, hein, une sanctuarisation de la foi, une sorte de huis clos mystique avec Dieu, mais ça s'arrêterait là. Si au contraire nous répondons « oui, ça change quelque chose », alors il devient quand même un peu important, un peu urgent de s'intéresser à ces changements que la foi en Dieu opère dans nos manières de vivre. Est-ce qu'il existe une manière chrétienne de se comporter individuellement ou même en tant qu'Église ? Et là, au long de l'histoire, il y a eu des grandes réponses apportées, à des grandes positions apportées à cette question. La première réponse, ça a été celle de la séparation. Être chrétien, pour reprendre le langage biblique, c'est être citoyen d'une autre patrie. Pour reprendre le langage de Pierre, c'est être étranger sur cette terre. Et Jésus dira, lui aussi, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». On peut en conclure qu'il faut donc se séparer du monde et créer un nouvel espace de vie, un espace de sainteté pour la seule communauté des croyants. C'est dans l'histoire l'idéal quaker, par exemple, l'idéal aussi de certaines églises évangéliques qui ont voulu créer des communautés de purs, des communautés séparées. Une deuxième réponse dans l'histoire se situe tout à l'opposé de celle que je viens d'énoncer. Vivre en chrétien, c'est au contraire vivre l'enfouissement. Je m'explique. Il faut rejoindre coûte que coûte notre monde, et cette position trouve un appui d'ailleurs dans une métaphore de Jésus qui dit que si le grain de blé ne meurt, il doit tomber en terre et mourir pour porter du fruit. S'il ne meurt, il ne sert à rien. Il faudrait donc être solidaire de ce monde jusqu'à s'y perdre, en quelque sorte. C'est ce qu'on a appelé, surtout dans le milieu protestant, mais aussi en Amérique du Sud, dans les années 60, l'évangile social, la théologie de la libération. Le christianisme se dissout dans le monde, espérant le transformer. Voilà la réponse qui a été donnée après la séparation, la définition opposée, celle de la dissolution ou l'enfouissement. Bon, il y a une autre réponse, une troisième qui a été proposée, qui est très intéressante aussi, c'est celle de la contestation. Être chrétien, ce serait vivre en décalage du monde pour pouvoir appeler le monde à changer de vie. Et c'est la parole de Jésus qui appelle, dans l'évangile de Jean, les disciples à vivre dans le monde sans appartenir au monde. Vous connaissez tous cette répartie du Christ, très fine. Il faut être un signe de contradiction visible, assumé au sein de cette société qui ne sait pas où elle va. Il y a trois modèles, vous allez peut-être ajouter un troisième, un quatrième, un cinquième, à cette question, comment vivre en chrétien ici-bas? Est-ce qu'il y a des choses interdites dans la vie chrétienne? Est-ce qu'il y a des obligations? Est-ce qu'il y a des choses licites et illicites? Des choses acceptables, indifférentes, etc., etc. Est-ce qu'on peut fumer quand on est chrétien? Est-ce qu'on a le droit d'écouter du rap non chrétien? On disait du rock de mon temps, mais j'essaie de me mettre à la page. Est-ce qu'un chrétien peut aller en boîte de nuit, boire de l'alcool? Et si oui, jusqu'à quelle quantité? Est-ce qu'un chrétien peut avoir des amis non chrétiens? Est-ce qu'un chrétien peut avoir une relation amoureuse avec une personne extérieure à sa communauté? Et dans notre relation à l'argent, est-ce qu'il est bien bon pour le chrétien de travailler dans la finance, de prospecter en bourse, de prêter à intérêt, de placer? Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait, le chrétien, de la parole de Jésus qui nous dit de choisir entre Dieu et maman? Est-il bien, chrétien, d'acheter des produits fabriqués au bout du monde par des enfants de 8 ans, de 6 même? De manger des figues et du raisin en hiver? De soutenir le PSG qui voyage en jet privé? Non, là je dérape, bon. Et on pourrait encore parler, bien sûr, d'éthique sexuelle, on pourrait parler de la fin de vie, et peut-on être pour l'euthanasie assistée? Pour toutes ces questions, toutes, et toutes celles encore que je n'ai pas citées, on trouve des avis divergents au sein de l'Église, parmi les chrétiens. Sinon divergents, toujours nuancés. Alors, qu'est-ce que ça change dans ma vie d'être chrétien? Ça devient un peu compliqué, hein, vous le sentez. Eh bien, c'est exactement à cette question que l'apôtre Paul a été confronté par ses amis de l'église de Corinthe. Ils veulent savoir s'il est possible, écoutez bien la question, de consommer des viandes qui ont été sacrifiées au culte des idoles. La question est brûlante. Elle crée des conflits au sein de l'église. La question des viandes sacrifiées aux idoles, voilà le problème. Peut-on acheter au marché la viande qui a servi quelques heures auparavant à des sacrifices pour Zeus, pour Apollon, pour Mitra, que sais-je encore, Corinthe, il y a plein de temples. Et quand on connaît la provenance de cette viande sacrificielle, n'est-ce pas une façon de se compromettre? De se souiller spirituellement, de faire allégeance au faux Dieu. Manger, au bout du compte, n'est-ce pas pécher, n'est-ce pas renier le Christ? Et c'est encore plus compliqué quand on ajoute, par exemple, que votre voisin que vous aimez bien vous invite à dîner et vous sert une de ses viandes d'origine suspecte. Faut-il refuser la relation avec votre voisin? Et plus embêtant encore, quand le frère de l'église me voit aller manger chez mon voisin païen de la viande sacrifiée aux idoles, cela n'augure-t-il pas de relations tendues au sein de l'église le dimanche qui suit? ne faudrait-il donc pas un arrêté apostolique clair interdisant la consommation de telle viande et la fréquentation des voisins païens ? Voyez que cette question de la séparation du monde ou de l'enfouissement ou de la contestation du chrétien dans le monde est une question qui est finalement très pratique, quotidienne. Nous sommes devant des choix, des questions. Eh bien, la réponse de Paul aux Corinthiens se trouve dans les chapitres 8, 9 et 10, trois chapitres sur 16 consacrés à cette question. C'est pour dire que Paul a consacré une grande réflexion et que ça a été pour lui une question très importante. On ne va pas lire les trois chapitres. J'ai préféré vous préparer un florilège de lecture réagencée des principales paroles de Paul sur la question. En réalité, il y a trois temps dans le raisonnement de Paul, la réponse de Paul aux Corinthiens. Paul, d'abord, va reconnaître que la question est importante. Il ne va pas la traiter vite fait. Regardez. Merci. Mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des gens avisés. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction sur laquelle nous prononçons la bénédiction, n'est-ce pas une communion au sein du Christ ? Le pain que nous rompons, n'est-ce pas une communion au corps du Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous, la multitude, nous sommes un seul corps, car nous partageons tous le même pain. Voyez l'Israël selon la chair, ceux qui mangent des animaux offerts en sacrifice ne sont-ils pas en communion avec l'autel ? Ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas partager la table du Seigneur et la table des démons. Paul donne ici donc raison à ceux qui estiment que la consommation des viandes est une compromission. Je reformule ainsi, on ne peut pas affirmer en même temps que Jésus est le Seigneur et par ailleurs dire que bon, tout se vaut. Ce serait une sorte de syncrétisme religieux. Le Christ et les démons, répond Paul, c'est pas compatible. C'est la première étape du raisonnement de Paul. Il faut choisir, et ce choix est quelquefois et toujours radical et exclusif. Mais Paul n'a pas que cela à dire aux Corinthiens, parce que j'ai enjambé le verset 19 que je vais maintenant lire. Que dis-je alors ? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance ? Qu'une idole aurait de l'importance ? Non. Paul ici reprend donc une idée qu'il avait déjà développée plus haut au chapitre 8. En ce qui concerne la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a de Dieu qu'un seul. Car s'il est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un Dieu, le Père, de qui tout vient et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Or ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins, et si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Un peu plus loin, au chapitre 10, manger de tout ce qui se vend au marché sans poser aucune question par motif de conscience. Car c'est au Seigneur qu'appartient la terre et tout ce qui s'y trouve. Si un non-croyant vous invite, et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous offrira, sans poser aucune question, par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas », à cause de celui qui vous a informé et par motif de conscience. Quand je dis « par motif de conscience », je ne parle pas de votre conscience à vous, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par la conscience d'un autre ? Si moi, je prends ma part avec gratitude, pourquoi serais-je calomnié pour ce dont moi, je rends grâce ? Le message de Paul, même s'il est abondant, est assez simple. Je reprends avec mes mots. Pour Paul, les divinités, les puissances, les démons, ça n'existe pas. Même si des tas de gens y croient. En dehors du Dieu de Jésus-Christ, le monde est vide. Et nous, nous sommes libres. Nous sommes placés sous l'unique autorité du Christ, l'unique Seigneur. Grâce à lui, nous avons tous les droits, celui de manger et de ne pas manger. Et si cette liberté n'est pas un piège pour votre conscience, dit Paul, alors faites ce que vous voulez. Et Paul ajoute une dernière chose à son exhortation. Si votre liberté ne doit pas être un piège pour votre conscience, elle ne doit pas être non plus un piège pour les autres. Ah, alors lisons au chapitre 8. Mais tous n'ont pas cette connaissance. En effet, quelques-uns, encore tenus par l'habitude des idoles, mangent de ces viandes en les considérant comme sacrifiées aux idoles et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Là, il s'agit de gens de l'Église, hein, de la communauté. Prenez garde cependant que votre droit ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, à table, dans un temple d'idoles, la construction de sa conscience ne va-t-elle pas l'amener, lui qui est faible, à manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Ainsi, le faible se perd à cause de ta connaissance. Lui, ce frère pour qui le Christ est mort ! En péchant de la sorte contre les frères et en heurtant leur conscience, qui est faible, c'est contre le Christ que vous péchez. C'est pourquoi, si un aliment doit causer la chute de mon frère, jamais plus je ne mangerai de viande afin de ne pas causer la chute de mon frère. Entendez bien que le raisonnement de la mise en garde de Paul ici n'est pas en rapport avec la bonne morale, les convenances. On ne va pas s'abstenir de viande sacrifiée aux idoles parce que ce n'est pas convenable. Mais seulement, c'est l'unique raison. Parce qu'en faisant cela, il peut arriver quelque chose de très grave. La relation de mon frère ou de ma sœur avec le Christ peut être mise en danger. Et dans cette même logique, Paul ajoute un principe qu'il s'applique d'ailleurs à lui-même, au chapitre 9. « Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus grand nombre. » Et il ajoute aussi, chapitre suivant, « Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui de l'autre. » Ça va, vous me suivez ? Je reprends quand même le raisonnement. La question du début, ça change quoi dans notre vie d'être chrétien ? Pour reprendre le langage de Paul ailleurs dans l'Épître aux Romains, il dit « Comment vivre la glorieuse liberté des enfants de Dieu hein ?» Et en même temps, comment s'adapter au contexte, aux réalités, aux complexités de la vie, et de la vie d'Église en particulier ? parce que c'est bien là que nous sommes appelés à vivre. C'est là que se trace notre chemin de sainteté. La réponse de Paul aux Corinthiens est finement ciselée. Elle ne ferme pas la discussion. Ce serait facile et commode pour nous, il y aurait un interdit, indiscutable, c'est niet. Point suivant. Et elle ne se compromet pas, mais là on connaît Paul et on a l'habitude, dans une permissivité laxiste. Il nous dit, un, vous posez une question très importante, les amis. Deux, entendez premièrement que votre liberté en Christ est totale. Elle vous ouvre à tous les possibles. Elle vous élève même au-dessus des lois. Quand, par exemple, ces lois viendraient vous imposer ce que votre conscience ne peut accepter au nom de votre foi. Et il y a eu une période, moi j'étais encore... j'étais jeune, je connaissais des gens qui ne voulaient pas faire le service militaire. Et c'était leur liberté à cause de leur foi. Ils allaient en prison. Et ils refusaient que la loi de la République soit une contrainte, soit supérieure en force à leurs convictions chrétiennes, religieuses. Et cette question aujourd'hui devient à nouveau extrêmement actuelle avec la loi sur les séparatismes, etc. Donc, votre liberté en Christ est totale. La deuxième chose que Paul nous dit, c'est que puisque vous êtes libre, alors sachez que vous ne mettrez jamais autant cette liberté en œuvre qu'en vous soumettant les uns aux autres. L'arrière-garde. Que votre liberté se convertisse premièrement à l'amour du prochain. Qu'elle se libère elle-même du désir de posséder, d'imposer à l'autre ses convictions. Et je trouve que ça fait vraiment une résonance très forte avec ce que tu nous as apporté sur la soumission mutuelle tout à l'heure et sur l'organisation générale de l'Église. Luther, Martin Luther, le réformateur, aura dans ce magnifique petit traité de la liberté chrétienne une phrase dont il avait la science. Il dit « Un chrétien est un libre seigneur sur toute chose et il n'est soumis à personne. Un chrétien est un serf corvéable. » Il faut un S à serf. Parce que sinon, il faudrait des cornes aussi, là. Donc, un serf corvéable à merci, et il est soumis à tout le monde. Débrouillez-vous avec ça. Et Paul renvoie donc ses amis qui sont à Corinthe et à Pessac à la conscience, à la liberté et à la responsabilité. Pour le dire avec les mots de Paul, tout est permis. Mais tout n'est pas utile, tout est permis, mais tout n'est pas constructif. Alors, sœurs et frères, qui nous dira maintenant, parmi tout ce qui est permis, ce qui est réellement utile et réellement constructif, édifiant ? Personne d'autre que toi, mon frère, ma sœur, personne. Mais pas toi tout seul. Toi, avec tes frères et tes sœurs, en Christ, par la réflexion, dans la prière, dans la lecture communautaire des Écritures, il n'y a pas d'éthique chrétienne prédéterminée. Il n'existe pas, à ma connaissance, de manuel clair et limpide de ce qu'il faudrait apprendre et pratiquer. Il n'y a que des chrétiens cherchant ensemble, dans la liberté, dans la foi et dans l'amour fraternel, ce à quoi Dieu les appelle. Amen.